France Inter, le 18-20.
Alors ça y est, nous y revoilà. C'est pas qu'on avait oublié, la tête qui tourne après chaque attentat, les images en boucle sur les télévisions, les radios, le manque d'infos. Objectivement, c'est pas qu'on avait oublié, le risque permanent est quelque chose qu'on a intégré en France. Et lorsqu'on vit dans une grande ville, on ouvre toujours son sac dans les grands magasins, peut-être un peu moins. Et encore que Strasbourg vient de nous remettre en tout cas ces images tragiques en pleine figure et brasser aussi les mêmes interrogations. Encore une fois, c'est le profil de celui qui passe à l'acte que l'on interroge. L'indélinquance d'abord, le radicalisme religieux après, en prison. Ce que l'on interroge, c'est le moment, l'attaque préparée de longue date ou opportuniste. Ce que l'on interroge, c'est la traque qui en rappelle d'autres, évidemment, celle de Mohamed Merah, celle des frères Kouachi. Aussi, dans les deux cas, pas de plan B après des actes terroristes ici. On n'en sait trop rien encore, autant ne pas extrapoler. Il y a plus de 700 hommes et femmes derrière ce tireur présumé. Les forces de l'ordre sont surmobilisées, elles le sont d'ailleurs, et pour d'autres raisons, depuis plusieurs jours. Ce soir, bien sûr, le marché de Noël est fermé, il le restera encore demain, mais il finira par rouvrir, avant la fin de la semaine, à Strasbourg peut-être. Le procureur de la République a donné sa conférence de presse, il y en aura d'autres. Et vos questions, ce sont les nôtres, au 01 45 24 7000.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et c'est vous le premier, Claude. Bonsoir, soyez le bienvenu sur Inter.
Bonsoir. Voilà ma question. Je suis strasbourgeois. L'identité du tueur du marché de Noël étant connue, pourquoi ne pas présenter en boucle sa photo sur toutes les télévisions de France et même d'Allemagne?
Et merci pour cette question très concrète, Claude, à laquelle on va pouvoir répondre de manière très concrète aussi. Je vous présente d'abord les gens qui sont autour de la table. Hugo Micheron est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la chaire d'excellence Moyen-Orient, Méditerranée de l'ENS, spécialiste du djihadisme. Bonsoir Christophe Miette.
Bonsoir.
Vous êtes délégué national de la police judiciaire au syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et Sophie Parmentier est restée aussi avec nous. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Spécialiste de toutes ces questions pour France Inter. C'est pour vous la question, Christophe Miette. Est-ce que, pourquoi il n'y a pas sa photo? Est-ce que ça aide réellement la police d'avoir la photo de ce monsieur placardé partout ou pas?
Ça peut aider dans certains cas. Là, actuellement, l'individu est connu des forces de l'ordre et j'imagine qu'une décision a été prise pour de ne pas diffuser cette image, cette photo de cet individu, sachant que cet individu était extrêmement dangereux. On ignore s'il possède d'autres armes ou non, ou d'autres caches d'armes, et pour mettre la population en sécurité, tout simplement.
Donc on a peur, en gros, qu'en le reconnaissant, quelqu'un puisse avoir un geste. Ça fait aussi partie des raisons
Tout à fait, que cet individu se trouve acculé et fasse encore plus de massacres et de victimes, tout simplement.
J'ai pas de souvenir, parce que c'est terrible comme on oublie vite. Est-ce qu'on avait la photo de Mohamed Merah lorsqu'on le cherchait
à ma connaissance, la diffusion n'a été faite qu'après. Mm-hmm. Du fait que cet individu a été identifié rapidement et une opération a été mise en place par le RAID pour interpeller cet individu.
On avait la tête des frères Kouachi, en revanche, non? Au moment de la traque.
Tout à fait, oui.
Ouais. Et
par la carte d'identité oubliée dans le véhicule.
D'accord, c'est aussi des circonstances, en fait, Hugo Micheron, qui changent aussi la traque de l'homme, en fait, hein, j'imagine.
Oui, absolument, et cette traque rappelle également celle de Salah Abdeslam. Mm-hmm. Et je crois que c'est important de le mentionner parce que Salah Abdeslam a été, sa traque a été très longue, mm-hmm. contrairement à celle des Kouachi qui avait duré 48 heures ou à celle de Mohamed Merah qui a très vite été, s'est replié très rapidement dans un immeuble. Salah Abdeslam, lui, a fait le trajet inverse le 13 novembre de Paris vers Bruxelles, mmh. avec évidemment des complicités. Et là, il semblerait que dans le cas du tueur de Strasbourg, il y ait des complicités mmh. familiales. Et Salah Abdeslam avait été caché à Forêt, c'est-à-dire à 400 mètres du lieu où il a grandi. Et on voit que cette hypothèse, en tout cas ce soir avec les éléments dont on dispose, n'est pas totalement exclue non plus, même si l'hypothèse d'une fuite en Allemagne est possible. Donc c'est intéressant de voir comment des individus, à un moment donné, qui, et c'était mentionné, sont issus de cette ville, mmh. enfin lui est strasbourgeois, mmh. s'en prend à un lieu hautement symbolique de Strasbourg et potentiellement se replie à Strasbourg. Tout ça au nom, ça reste à déterminer, mais probablement au nom d'un mode opératoire établi notamment en Syrie par Daesh, vous voyez.
Et alors, tiens, on va y revenir, Hugo Micheron, évidemment, mais je vous interromps une seconde, parce que vous voyez, on en parlait, la tête de ce personnage apparaît là désormais sur les télévisions, ça prouve que donc la décision a été prise. Ça veut dire quelque chose, Christophe Miette, quand on prend cette décision-là? Est-ce qu'on se dit peut-être que ça va accélérer les choses, ou comme vous le disiez à l'instant, c'est comment on décide, en fait, qu'on doit, à partir de maintenant, on donne la tête?
Alors là-dessus, ça part au niveau des investigations. Il a peut-être été décidé dans un premier temps de fermer, de ne pas diffuser cette photo pour pouvoir surveiller ses premiers cercles d'amis, la famille, pour pouvoir surveiller dans les quartiers, pour pas attirer davantage de monde ou de vues et pouvoir travailler tranquillement et essayer de faire remonter des informations beaucoup plus rapidement pour permettre l'interpellation de cet individu.
Sophie Parmentier.
Par rapport à la famille, on peut juste ajouter qu'en ce moment, il y a des personnes en garde à vue de sa famille, ses parents et ses deux frères. Alors c'est toujours très classique en fait dans les enquêtes. En fait, ça veut pas dire qu'ils sont impliqués du tout. Ils risquent d'apporter des éléments aux enquêteurs et Christophe Miette à côté de moi va le confirmer. Donc en ce moment, il y a ces gardes à vue, il y a d'autres personnes qu'on cherche, mais c'est sûr qu'à partir du moment où la décision est prise de diffuser la photo, c'est que ça met plus vraiment en péril la traque. En tout cas, de toute façon, le nom de Chérif Chekat est déjà sorti, même s'il faut le rappeler, le procureur de la République, tout à l'heure dans sa conférence de presse, ne l'a pas donné. Il a simplement donné le prénom Chérif C. Et je vous rappelle que François Molins avait insisté sur le fait que c'était compliqué et pas souhaitable en fait de donner l'identité des personnes qui avaient frappé dans des attaques terroristes parce que souvent ils recherchent une notoriété et ça lui paraissait pas souhaitable. Il faut noter aussi, c'est très important, dans ce studio même ici à France Inter ce matin, Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, a insisté sur toute la prudence qu'il fallait avoir autour de cette attaque. Est-ce que c'est un attentat ou pas? Et le mot attentat n'a pas été prononcé dans la conférence de presse du procureur tout à l'heure, même si la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisi parce que il y a dans le mode opératoire, dans les cibles visées, tous les éléments de l'attaque terroriste. Et puis pour la première fois, le procureur a dit qu'il y avait eu ces cris, vous savez, Allah Akbar, Dieu est le plus grand, cris de ralliement en fait de tous les terroristes qui sont passés à l'action ces dernières années. Mais en tout cas, le mot attentat n'a pas été prononcé. C'est quand même important de le dire ce soir.
Et c'est vrai, Hugo Micheron, qu'il y a encore beaucoup de zones de doute. Et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur. Alors, on sait aussi, ça fait partie des éléments qu'on a eu tout de suite que cet homme a failli être arrêté puisqu'on le cherchait pour des histoires de droit commun qui n'ont rien à voir. Donc la question de la raison pour laquelle il y a cette attaque quelques heures seulement après se pose évidemment. Est-ce que c'est une attaque opportuniste? Est-ce qu'il y avait quelque chose de près et il se dit, comme ils sont derrière moi, je vais y aller tout de suite? Tout ça est encore largement dans l'air.
Oui, tout à fait. Et donc dans ces cas-là, on peut raccrocher à des choses passées, des précédents, si j'ose dire. Le scénario où il aurait précipité une attaque suite à une perquisition sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le djihadisme, puisque c'était un braquage et une accusation d'homicide, fait penser à ce qui s'était passé à Bruxelles le 22 mars 2016 au moment des attentats de Zaventem et contre le métro, où en fait les complices de Salah Abdeslam, suite à son arrestation, ont provoqué un passage à l'acte qui était une sorte de plan B, qui n'était pas du tout le plan initial, parce qu'ils se savaient traqués, ils se savaient probablement arrêtés très rapidement. Donc là, peut-être à petite échelle, parce que ça n'a rien à voir en termes évidemment d'échelle, mais cet individu aurait pu accélérer finalement un passage à l'acte ou bien actionner un plan B, d'autant plus que la cible, à savoir le marché de Noël de Strasbourg, est une cible extrêmement symbolique, hautement symbolique, et bien connu des djihadistes qu'il avait menacé à plusieurs reprises. Donc ça serait peut-être le plan B typique sur lequel un individu comme ça, conscient ou non de l'importance du marché de Noël, en tout cas il l'avait probablement en tête.
On va revenir sur ce que vous disiez, notamment sur le passé djihadiste de Strasbourg. Juste un détail quand même, est-ce qu'on doit s'interroger là sur le fait qu'il n'y a pas eu, pour aller dans le sens de ce que disait Sophie à l'instant, qu'il n'y a pas eu de revendication du tout, qu'apparemment en tout cas rien n'a été dévoilé, en tout cas pour l'instant, Christophe Miette, de ce qu'on aurait pu trouver qui nous mette sur une piste purement terroriste, comme on a pu en trouver dans le passé, des vidéos, des traces, des signes, des drapeaux et autre chose de ce genre-là en fait?
Non, là, il n'y a pas eu à l'heure actuelle des revendications. Peut-être le pourquoi, c'est une déstabilisation de l'État islamique avec tout ce qui s'est passé en Syrie et autres. En attendant, mes collègues scrutent les réseaux et autres, rien n'est remonté. Après, peut-être que ça a été précipité. On a eu le cas également, l'exemple avec les attentats Rambla à Barcelone, où ça a été précipité aussi et pas forcément dans l'immédiateté une revendication.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Alain, comme ça on va pouvoir, j'allais dire, tordre le cou à toutes ces questions-là une bonne fois pour toutes. Vous allez comprendre. Bonsoir Alain. Alain, vous êtes là ?
Oui.
Et on vous écoute, Alain, allez-y.
Oui, bonsoir. Écoutez, je vais essayer d'être... parce que il y a un certain nombre de choses que je ne comprends pas. Donc, je vais vous poser les questions suivantes. Que veut dire fichier S? On nous a expliqué ce matin que celui qui a fait son scénario était fichier S. Je n'arrive pas à comprendre s'il était fichier S parce qu'il était radicalisé ou s'il était fichier S parce qu'il était, finalement, ce que j'en ai compris, un petit délinquant et peut-être un gros délinquant qui a fait
Hein, très très gros, très très gros casier judiciaire.
Oui, absolument. Et donc, dans ce cas-là, qui est-ce qu'on suit en priorité? Parce qu'il me semble que ce délinquant méritait d'être suivi de manière éminente. Et que, prioritairement, par rapport à le fait que, maintenant, on nous explique qu'il s'est radicalisé religieusement. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il s'est radicalisé religieusement, donc il était susceptible de ne rien faire d'autre que de se radicaliser religieusement. Mais en même temps, il était susceptible de continuer à braquer une banque, braquer un commerce, etc. Et donc, comment se fait le tri entre ces deux notions de...
On va vous répondre tout de suite, Alain, pour que les choses soient bien bien claires une fois pour toutes. À chaque attentat, et c'est terrible à dire, on le répète, mais c'est bien de le re-répéter pour la xème fois. Christophe Mietz, d'abord, on redéfinit. Fiché S, ça veut dire quoi? Et il y a combien de personnes qui ont une étiquette fiché S sur leur dos?
Alors, le fichier S, c'est un fichier qui a été inventé dans les années 1960. C'est un fichier de renseignement à destination de la police, c'est un outil de travail et en aucun cas ça veut dire que la personne qui est fichée S va de suite être marquée en rouge.
C'est pas un critère de dangerosité, il n'y a pas un sémaphore qui s'allume au-dessus du gars quand il est fiché S.
Non, vous avez plusieurs classifications dont atteinte à la sûreté de l'État ou autre. Vous pouvez avoir également, vous avez des fichiers S qui sont concernés puisqu'on touche l'islamisme radical, vous avez des militants d'extrême droite et d'extrême gauche, vous avez des black blocs, etc. C'est vrai que les fichiers S, c'est le mythe. On a l'impression qu'un individu est fichier S, les solutions vont être trouvées. Ce n'est simplement qu'une aide à l'enquête. Ça ne veut pas dire que judiciairement, on va finaliser avec une procédure dans un tribunal et une condamnation.
Est-ce qu'il le fiche S, là, c'est sa radicalisation en prison? C'est ça qui le fiche S?
En fait, c'est les deux. Les questions de l'auditeur, la question de l'auditeur est très pertinente, en fait, parce que c'est exactement la difficulté de ce profil, de l'analyse de ce profil, c'est qu'il
profil
est...
Profil en Y, en fait.
Exactement. Donc, il a été fiché parce qu'il était violent et il avait un casier judiciaire, vous l'avez dit, long comme le bras. Et en même temps, à partir de 2016, il est très clairement identifié comme un islamiste forcené.
Prosélyte, on dit.
Prosélyte en prison. Il ne s'est pas radicalisé en prison. Il a été détecté comme prosélyte en prison. C'est-à-dire qu'il était déjà endurci. C'est-à-dire qu'il avait déjà un profil de meneur pour les autres. Donc, c'est un individu. Et ça, c'est un profil, alors, c'est bête à dire, mais assez classique du djihadisme. Si on veut prendre le modèle, le parangon, si vous voulez, de ça, c'est Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'était quelqu'un qui est baigné dans les milieux délinquants de la cité des Isards, dans le centre de Toulouse. Un passé de délinquant très affirmé. Et en même temps, dont les plus proches amis, le beau-frère par alliance, étaient des djihadistes très reconnus de la mouvance toulousaine dès le milieu des années 2000. Son mentor, Sabri Yessid, qui est mort en février 2018 sous Daesh cette année, était déjà impliqué dans les réseaux irakiens en 2006 pour le djihad. Donc il y avait vraiment cette double antériorité chez Merah et on voit bien qu'en fait il a mis l'un au service de l'autre à un moment donné. Et ce profil-là, c'est un des profils, c'est pas le seul, mais c'est un des profils qu'on a retrouvé chez Daesh qui était parti parce que Daesh leur faisait la cour. Ils voulaient des individus comme ça qui avaient l'habitus du criminel, c'est-à-dire qu'ils avaient les planques, ils savaient comment se positionner par rapport aux forces de l'ordre, ils avaient éventuellement de l'argent, bref, des réseaux logistiques en
et
Europe.
Réseaux pour les armes, j'imagine.
Exactement. En Europe, des réseaux logistiques. Et en même temps, ils étaient capables d'administrer la violence et notamment la mort en Syrie. Donc, il y a les deux fronts, levantin et européen, de l'organisation. Ces individus n'ont pas disparu. Et au contraire, c'est plutôt une tendance qui s'agrandit à l'heure actuelle.
Et alors,
Pardon, allez-y, oui, Christophe Niette.
Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il serait absurde de ne pas mettre ensemble et mettre en évidence la porosité entre salafisme et entre délinquance de droit commun, où nous avons des liens évidents avec trafic de stupéfiants ou trafic d'armes.
Et ça, effectivement, Sophie Parmentier, comme le disait Hugues Micheron, ce sont des profils qu'on connaît, qu'on a déjà vus lors d'attaques précédentes.
Oui, bah, par exemple, les frères Kouachi, dont vous parliez, connus d'abord multi-délinquants récidivistes, tout comme Mohamed Merah, avant de se radicaliser. Donc là, c'est vrai que dans le cas de Chérif Chekat, le tireur de Strasbourg qui est toujours en fuite, eh bien, il ne s'est pas radicalisé en prison a priori. Je voulais juste revenir un instant sur l'affiche S. En fait, Christophe Miette le disait, c'est un outil de renseignement pour les policiers. Et donc, par exemple, pour Hamedi Coulibaly, un des terroristes de janvier 2015, eh bien, il avait été, souvenez-vous, arrêté par les policiers peu avant les attentats. Et donc, ça avait permis de recueillir des informations. Alors, évidemment, il y a toujours cette polémique, puisque une fois qu'il y a l'attaque, on se dit, mais pourquoi on l'a pas arrêté? Mais simplement que c'est une source d'information précieuse à chaque fois pour les policiers et tous les politiques qui disent qu'il faut incarcérer tous les fichiers S. Eh bien, je pense, Christophe Miette peut le confirmer, du coup, c'est des informations en moins. Et Laurent Nunez disait ce matin qu'il y avait eu 55 attentats déjoués ces dernières années.
Depuis
2013. Et donc, tout ce recueil d'informations permet d'aboutir aussi à des arrestations avant des passages à l'acte.
Parce que pour terminer sur cette question, Christophe Miette, on dit quoi? Il y a 20 000 personnes qui sont fichées S. Est-ce que c'est à peu près ça le chiffre? Et est-ce qu'une grosse moitié qui fait l'objet d'un suivi? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Le nombre de fichiers S va rester... sans appel. Par contre, nous avons 20 000 personnes inscrites au fichier de signalisation, prévention de radicalisation, terrorisme au niveau préfecture. Ça, d'accord, oui, on peut le dire.
Et le nombre de gens qu'on vise et qu'on suit, donc que ce soit avec un œil ou avec deux yeux ou de manière très 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 approfondie, est-ce qu'on peut savoir à peu près où il se situe ou pas?
J'allais dire une réponse...
Vous avez le droit à une réponse de norme.
Une réponse bateau, j'allais dire, c'est un certain nombre sont suivis, des choix sont faits dans le suivi, malheureusement les effectifs de police ne sont pas extensibles, donc des choix sont faits, et pour quand une dangerosité avérée d'un individu est ciblée, il faut savoir, à minimum, pour un individu, c'est 20 fonctionnaires en H24 en permanence pour surveiller, donc des choix sont faits, oui.
Hugues Micheron, il y a autre chose qui m'intrigue, qui pourra nous intriguer quand on en saura plus, peut-être sur ce Chérif Chekat, il n'y a pas de suicide à la clé. Alors, il n'est pas le seul, hein. Il y en a eu d'autres avant lui. Les frères Kouachi, il n'y avait pas de suicide à la clé. En soi, après les attentats, Salah Abdeslam, il n'y avait pas de suicide à la clé. Mais là non plus.
Oui, absolument. Et c'est une différence avec les djihadistes de Daesh qui systématiquement cherchaient la mort, ce qu'ils appellent le martyr. Et par ailleurs, à le médiatiser un maximum. Cet individu a pris la fuite. Donc, il a fui, entre guillemets, le martyr. Alors, ça peut être perçu de deux façons. La première, c'est que il poursuit un programme de tuerie, etc. Donc c'est le cas de Mohamed Merah, qui pendant une semaine avait commis plusieurs méfaits. Ce scénario est minoré, la probabilité de ce scénario est minorée par le fait que a priori cet attentat aurait été précipité, justement. Donc la deuxième possibilité, c'est que l'individu lui-même était ambigu et que il bénéficiait de complicité et que il n'était pas censé faire ça ce soir-là. Ce qui veut pas dire qu'il n'est pas djihadiste, ce qui veut pas dire qu'il n'est pas criminel, mais ça correspondrait à un nouvel élément où l'individu se dit en cours de route qu'en fait il vaut mieux battre en retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte dans lequel se produit l'attentat est complètement différent de la campagne d'attaque qu'on a connue entre 2015 et 2016, parce qu'en fait Daesh a été battu militairement au Levant. Il n'en reste plus qu'une toute petite poche, donc ils n'ont plus les mêmes capacités opérationnelles et organisationnelles. La plupart des djihadistes sont à l'heure actuelle incarcérés et ont une marge de manœuvre extrêmement restreinte. Donc il reste, ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec les djihadistes, on a fini avec Daesh. Et donc du coup, il y a un modèle opératoire qui explose aussi en même temps. Donc là, c'est peut-être une de ces manifestations.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, la disparition de Daesh, donc en fait du cadre, on va dire, quel que soit effectivement l'état de ce cadre, est-ce que ça peut nous amener à des profils qui sont changés, qui sont complètement différents, ou même peut-être, je vais mettre évidemment beaucoup de guillemets, la motivation est différente, donc effectivement, on a moins envie de mourir, on a moins été, le cerveau a été lavé différemment, on va dire, que le pur attentat suicide.
Oui, en fait, il y a deux tendances à l'heure actuelle. Déjà, parmi tous les djihadistes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré 80 en détention, tous ont considèrent que Daesh est défait. D'accord ? Donc ils sont dans une logique de « Ok, on a perdu. Comment on restructure nos forces ?» Et ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils sont sous la main de l'État, au cœur des prisons. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a effectivement une tendance à dire « Il faut suspendre les attentats. » Parce qu'ils considèrent qu'ils sont désormais passés en phase de faiblesse, que le rapport de force ne leur est plus favorable. Et donc ils ont tendance à dire que les individus qui passent à l'acte, comme cet individu à Strasbourg, finalement desservent la cause parce qu'ils attirent à nouveau l'attention sur le phénomène djihadiste. Donc, c'est évidemment un drame énorme, mais il faut comprendre que à mesure que ils produisent ce genre d'effet, déjà ils ne développent pas la cause, mais ils nous permettent nous de faire le point aussi. C'est d'un drame, on arrive à produire la connaissance pour essayer de comprendre là où ils en sont. Et donc typiquement cet individu qui prend la fuite et refuse le martyr, dont on voit qu'il a un CV de criminel long comme le bras. Permet justement de voir ces tendances à l'hybridation entre les milieux criminels, éventuellement de deal, et les milieux plus islamistes qui peuvent cohabiter parfois au sein du même bar d'immeuble.
Et alors, pardon de poser une question tellement naïve, mais suspendre les attentats, en gros, alors est-ce que c'est pour se restructurer? Et surtout, est-ce qu'il y a moyen, quand on décide de ce genre de choses, de le faire savoir, en fait? Est-ce qu'il y a une vraie tendance en ce moment qui essaye de faire savoir que la stratégie a changé?
Oui, dans le sens où, et c'est aussi une bonne nouvelle, on a tendance à croire, et c'est une erreur, que le djihadisme peut frapper n'importe où, n'importe quand, etc. Ça, je le comprends, parce que la multiplication des attentats a pour but de créer ce sentiment. En réalité, quand on connaît le djihadisme de l'intérieur, c'est un petit monde. Et donc, oui, ils ont le moyen de se faire savoir, parce qu'ils se connaissent. Vous parlez à l'un, il connaît tout de l'autre. Et donc, on parle, en tout et pour tout, de 2000 Français impliqués dans les réseaux de Daesh. Alors, ça touche, c'est 2000 familles aussi, donc ça touche à des individus par relation, mais c'est globalement une seule et même pelote de laine. Et donc ça, c'est important, parce qu'on sort du débat sur les fichiers S, puisque de toute façon, il y a des logiques de groupe. Donc on n'est pas dans la surindividualisation, on est dans l'approche collective du phénomène. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des logiques géographiques. La filière de Strasbourg a été, et Strasbourg est connue pour ça, pour ceux qui s'intéressent au djihadisme, c'est une filière extrêmement importante. Ce sont les premiers à partir. Donc les noyaux durs des djihadistes français, il y en avait un qui était à Strasbourg. Ce sont des individus qui ont été particulièrement violent sur place, ce qui explique que Fouad Mohamed Agad, du 13 novembre, qui était au Bataclan, était strasbourgeois. Il a été distingué par Daesh pour participer aux attentats du 13 novembre. C'est affreux, mais c'est comme ça qu'il pense. Et donc, il y a ce terreau strasbourgeois qui est petit, un petit écosystème, mais très dur, qui était déjà là. Et donc, si on veut comprendre l'attentat à Strasbourg, il faut aussi resituer ça. Et ça nous permet de resituer dans des perspectives beaucoup plus longues, qui est pourquoi Strasbourg? Alors, il y a d'une part la situation géographique de la ville, frontalière, proche de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique. Donc, ça permet au réseau d'être plus dur à contrôler. Je parle évidemment sous votre contrôle. Et l'autre élément, c'est qu'il y a eu des réseaux djihadistes très anciens qui avaient identifié Strasbourg comme étant un point de chute, et c'était les réseaux du GIA algérien à la fin des années 90. Donc vous voyez, on a des tendances qui s'écrivent sur 20 ans, donc on n'est plus du tout dans le débat sur les fichiers S, on est sur qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'un continent, d'un pays comme la France, sur ces 20 dernières années, en relation avec des dynamiques internationales.
Et Christophe Miette, en entendant ce que nous raconte Hugo Micheron, qui est passionnant, on comprend aussi toute la différence aussi de stratégie qui est la vôtre, celle de la police aussi, pour arriver à suivre ces différents mécanismes qui bougent, qui sont changeants et qui sont différents en fonction du temps, en fonction de l'état de Daesh, en fonction de l'état de la Syrie et du reste.
Tout en ajoutant aussi les personnes qui sont borderline et qui peuvent passer à l'acte en se revendiquant de tel ou tel salafisme ou telle croyance.
Je voudrais qu'on écoute Franck qui nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir.
Allez-y Franck, on vous écoute.
Je vous remercie, je vous félicite déjà pour votre émission. Voilà, donc je m'appelle Franck Betcher, je suis un Strasbourgeois comme beaucoup d'autres, membre fondateur d'un groupe Gilets jaunes sur Strasbourg, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Gilets jaunes Strasbourg République, et en l'état actuel de la situation, même si très majoritairement je pense que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas satisfait des réponses du président Macron, vu la situation actuellement sur Strasbourg, je pense qu'il faut qu'on évite de rajouter, de mettre de l'huile sur le feu, et en particulier nous avions décidé de nous retrouver le samedi à venir à 10h, place de la République, et Actuellement, on a ce déséquilibré qui est encore poursuivi par nos forces de police. Alors, je sais qu'il y a un certain ressentiment sur ce qui s'est passé sur certaines manifestations où on a vu clairement des gens se faire gazer alors qu'ils manifestaient paisiblement. Mmh. Je pense qu'il y a un certain ressentiment vis-à-vis de la police que je comprends, que je partage. Mais la police, c'est pas que ça, hein, puisque la police, elle est aussi pour nous, se bat pour notre sécurité. Actuellement, et c'est noté, on a 720 membres des forces de sécurité qui agissent sur Strasbourg et dans le périmètre proche. Donc pour moi, il est évident cette manifestation ne doit pas avoir lieu pour la raison évidente, bien sûr, que l'ensemble des forces de police sur Strasbourg doivent se focaliser sur la chasse à l'homme.
On vous a entendu, Franck. Est-ce que vous êtes entendu vous-même ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que ce sentiment que vous nous donnez, en tout cas sur Strasbourg, puisque vous représentez vous Strasbourg, il est partagé ? Et que ce week-end, du point de vue des Gilets jaunes, sera un week-end de trêve, on va dire.
Alors, bon, voilà, je représente pas Strasbourg, hein. Voilà, hein, je fais partie d'un groupe, et je suis juste qu'un membre fondateur. Actuellement, je suis en déplacement professionnel, donc je suis en train de regarder mon Facebook, je regarde sur certains sites et sur certains groupes. Malheureusement, je vois un certain nombre de messages auxquels je vais répondre et qui me déçoivent, mais ça, de toute façon, les groupes Facebook sont noyautés de partout par, on va dire, en résumé, la fachosphère, hein, c'est clair. Donc, avec des gens qui ne comprennent pas du tout la symbolique aujourd'hui qui consiste à faire une pause, parce que moi, je suis le premier à vouloir y aller. Donc, on va dire que, évidemment, et comme d'habitude, les abrutis se prononcent et ceux qui sont pour évitent de se prononcer. Donc, je souhaiterais.
Ce sont les abrutis qui parlent plus fort, c'est ça que vous êtes en train de dire, Franck.
Oui, qui parlent, disons, qui s'expriment, parce que les autres qui sont d'accord, en fait, ne s'expriment pas. Ils sont. L'immense majorité de nos groupes Facebook, donc voilà, les haineux sont sortis, il faut pas du tout les écouter, d'ailleurs ils font une vraie erreur de s'exprimer à ce moment-là, parce que quelque part ils dévoilent qui ils sont. Voilà, moi justement, le groupe qu'on a souhaité créer très récemment, en fait, Franck, est un groupe qui accueillera, excusez-moi je termine juste, si vous voulez bien, oui, accueillera que des gens qui respectent un minimum de gentillesse et d'humanité.
Et merci.
Donc je suis en train de traiter tous ces messages et de leur répondre, mais franchement, c'est indigne.
Et vous ont entendu,
pour
Franck.
La ville de Strasbourg, pour les victimes.
Merci.
J'ai moi-même un copain à moi qui a pris une balle dans la nuque, donc je pense qu'il est préférable peut-être qu'il ne se réveille pas. Et on doit être
merci,
solidaire.
Merci Franck. On vous a entendu. Merci beaucoup. On a entendu votre appel à ne pas manifester. En tout cas, pour ce qui est de votre groupe spécifiquement à Strasbourg et de votre difficulté aussi à le faire entendre et le faire savoir, ça va être évidemment Christophe Miette un problème, une préoccupation pour les forces de l'ordre pendant tout ce week-end, samedi y compris d'ailleurs.
C'est un enjeu majeur, j'allais dire, du fait que Franck a très bien compris l'enjeu. Il y va de la mise en danger de personnes. On n'a pas encore stoppé le parcours criminel de cet individu. Et nous avons à faire face depuis maintenant 4 semaines à des manifestants. Alors je ne dis pas que les manifestations doivent stopper net. Je suis syndicaliste aussi. C'est tout à fait légitime de manifester. Et c'est un droit légitime de manifester dans ce pays. Par contre, je demande aux personnes d'être sensées, d'être posées. Il en va de la vie de certaines personnes et une trêve serait de bon ton pour pouvoir permettre à ces forces de l'ordre qui sont exténuées depuis 4 semaines de pouvoir travailler correctement et ne pas se mettre en danger et pouvoir se concentrer sur ces faits de terrorisme.
On est en urgence attentat, on est en alerte maximum en fait sur le plan Vigipirate. Il y a 1800 hommes, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministres qui vont être rajoutés, si l'on peut dire, 1800 hommes. C'est le mécanisme normal quand on passe à ce stade de vigilance, non ?
C'est le mécanisme normal, sans compter que, comme je vous dis, plus de matériel en vigilance, en Vigiparate urgence attentat, plus de moyens, mais aussi en comptant sur les hommes et les femmes des forces de l'ordre, police ou gendarmerie, qui travaillent depuis un mois avec des rythmes horaires qui est 7h, 22h en non-stop, avec une fatigue accumulée également.
Juste préciser que les 1800 hommes qui ont été annoncés sont des militaires, hein, dans le cadre de l'opération Sentinelle et non pas des policiers. On rappelle qu'il y a aussi 700 policiers et gendarmes en ce moment qui sont en train 720, qui sont en train de traquer le tireur de Strasbourg.
Donc pour être très clair, les 1800 hommes supplémentaires sont là spécifiquement pour la traque en fait, et pour ou aussi pour la sécurisation. Est-ce qu'on parle des deux?
Pour la sécurisation des marchés de Noël.
D'accord,
également.
Voilà, ouais. Ben voilà, pour que les choses soient vraiment claires. Est-ce que vous aviez le sentiment, Christophe Miette, qu'il y avait une sorte de, on va dire, de relâchement en fait, de la part de nous tous, hein, finalement? Est-ce qu'on était devenu moins vigilant? Est-ce qu'on avait un peu le sentiment que tout ça était derrière nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, contre lequel il faut lutter aussi, se dire attendez, remettez votre vigilance au maximum, y compris vous, moi, tous, dans les magasins ou ailleurs, surtout en cette période de Noël?
C'est vrai que l'actualité, chassant l'actualité, on est vite passé à autre chose après les derniers attentats en date. C'était Trèbes, Carcassonne. Le mouvement des Gilets jaunes qui a pris de l'ampleur et qui était surmédiatisé et qui tournait en boucle 24 heures sur 24 sur des chaînes d'actualité. Et c'est vrai que le danger dans l'inconscient collectif s'est éloigné. Mmh. C'est indéniable. Par contre, les forces de l'ordre, depuis les attentats, c'est malheureusement, ça arrive. C'est des échecs vécus personnellement par les forces de l'ordre, mais il faut sortir aussi depuis 2012 énormément d'attentats qui ont été déjoués, un travail remarquable des forces de l'ordre.
Charge pour nous tous, Hugo Micheron, le risque aussi il existe, est-ce qu'il s'est déjà produit chez nous d'ailleurs de sur-attentat sur l'attentat, c'est-à-dire d'un effet mimétique en gros qui pourrait avoir lieu de la part de certains?
À grande échelle, c'est un peu la campagne d'attentat de Daesh en France entre 2015 et 2016, puisque c'était vraiment la stratégie de...
Mais c'était piloté par Daesh, là il n'y a plus de pilote.
Voilà, donc, exactement, et en fait c'est pour ça que c'est bien aussi d'être sorti, même mentalement et collectivement, de cette période d'attentat, parce qu'en fait, l'une des stratégies de Daesh, c'était de diffuser ses effets de terreur dans le temps par la multiplication des attentats dans l'espace. Et en fait, c'est très important de retourner une forme de normalité à partir du moment où effectivement Daesh a été battu. Et je crois qu'il n'y a pas de naïveté de la part des Français. Mmh. On a compris qu'on avait affaire à un phénomène qui était relativement durable. Par contre, que la chute de Daesh signifie quelque chose, et c'est pas nier la réalité que de retourner à une vie normale. C'est même plutôt sain. Je considère que dans la barbarie qu'a témoigné Daesh, elle nous a fait gagner 25 ans. Parce qu'en fait, Daesh a été un révélateur de dynamiques qui étaient très anciennes, qui se sont structurées localement sur des temps relativement longs et qu'on n'avait pas vu surgir jusqu'à l'attentat de Mohamed Merah en 2012. Une première erreur, ça n'a pas été de comprendre que là, il y avait un changement à opérer dans la compréhension de ce phénomène. Et malheureusement, la campagne de 2015-2016 nous l'a rappelé. Maintenant, on a passé cette... et je le vois, hein, que ce soit dans la recherche, dans tous les milieux qui travaillent sur ces sujets, que ce soit l'éducateur qui travaille à la lutte contre la radicalisation ou mes collègues doctorants à l'université et chercheurs confirmés, on a plus du tout les mêmes difficultés à parler de ça. Il y a un travail qui a été fait de production de connaissances qui va nous servir, et on est en train de rattraper ce retard. Et je crois que c'est important en période d'attentats comme aujourd'hui de rappeler que le travail il est fait entre deux attentats. C'est voilà, nous on est en train de comprendre et on va pouvoir expliquer et on va changer de paradigme et on va reprendre le dessus dans le voilà. On se fera pas tout seul à mon humble mesure. Je pèse rien, mais par contre.
Chacun pèse à sa mesure.
Mais par contre, c'est un travail qui est en train d'être fait.
Et alors sur justement les questions qui nous ont beaucoup agitées pendant les mois précédents, les départs et les retours, alors qu'il n'y ait plus de départ vers la Syrie, ça effectivement c'est très clair, départ pour où d'ailleurs, où est-ce qu'ils iraient? Qu'est-ce qu'il en est de ces fameux retours qu'on craignait autant aujourd'hui? Est-ce que ça a été finalement totalement endigué? Est-ce que, je vais le dire comme ça, est-ce que tout le monde est mort au fond? Et ceux qui ne sont pas morts sont enfermés? Est-ce qu'il reste des gens dans des poches dont on ne sait pas finalement ce qu'ils vont faire?
Oui, en fait, il n'y a pas eu de retour en masse. C'est-à-dire que, pour le faire très simplement, il y a trois tiers. Il y a un tiers de djihadistes partis qui sont morts, un tiers qui sont incarcérés à l'heure actuelle, et un tiers sur zone, avec une nette disparité entre les hommes qui ont fui, qui se cachent à leur acte et qui ont laissé femmes et enfants, ce qui est à peu près au-delà d'être une lâcheté, c'est aussi l'inverse de tout ce qu'ils ont vendu au monde, de l'homme valeureux.
Puisque la question se pose d'ailleurs des retours des femmes et des enfants,
voilà.
Mais là pour le coup, la
et
réponse
donc,
est oui.
Les femmes et enfants sont à l'heure actuelle dans des zones très identifiées en Syrie et en Irak, et donc la question de leur retour n'est pas encore complètement réglée, elle se pose, il y a des questions de droit, etc. Les hommes par contre sont plutôt traqués, et ceux qui restent, à vrai dire, sont généralement des lieutenants, voire des commandants de Daesh, donc des gens qui représentent un danger, mais qui, à l'heure actuelle, sont en fuite. Hein. Ils ne sont pas en train de parader. Hein.
Donc ça veut dire que la crainte du retour, malgré tout, elle existe encore, elle est encore là. Ou est-ce qu'on a un peu le sentiment que la fin du travail de ces gens-là va se faire différemment, en fait?
Bah, pour parler en termes très, très clairs, la plupart des hommes sur zone ne sont... A priori, vu le nombre de personnes qui sont à leur trousse, que ce soit les milices irakiennes, les milices kurdes, sans parler des services de renseignement du monde entier, a priori, soit ils rentrent pas, soit ils vont être entre de très bonnes mains.
Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, il y a des hommes et des femmes, comme le disait Hugo Micheron, qui sont encore dans des poches de résistance, par exemple la poche d'Adjin. On parle des frères Klein, peut-être, dans cette poche, avec donc des figures emblématiques. Vous savez, les frères Klein, la voie de revendication des attentats du 13 novembre, qui sont recherchés. Et puis, il y a des hommes qui ont été arrêtés, qui sont en prison, en Irak ou en Syrie. Il y a des femmes qui sont dans le camp de Roj, notamment, au Kurdistan syrien. Et on voit bien qu'en France, eh bien, personne ne se presse pour les faire rentrer. Vous savez qu'il y a tous ces débat sur le retour des femmes et des enfants notamment, et en tout cas, personne n'a très envie, n'est très pressé de les voir rentrer au niveau politique.
Est-ce qu'on a deux chiffres au moins à donner là-dessus, par exemple? Depuis qu'on a dit, effectivement, moi je me souviens de ce moment qu'il n'y a pas si longtemps, oui, on va faire rentrer les femmes et les enfants, est-ce qu'on sait s'il y a déjà eu des retours
Il n'y a plus de retours. Par exemple, pour les enfants qui sont rentrés, il y a 77 enfants qui sont rentrés ces derniers mois depuis 2016. Là, il y en a plusieurs dizaines qui ont été identifiées dans le camp de Roj avec leur mère. La problématique en ce moment, par exemple, les familles de ces femmes et de ces enfants, les grands-parents, vous savez, réclament le retour au moins des enfants qui sont nés là-bas ou qui sont partis très jeunes, qui sont considérés comme des victimes. Et là, pour l'instant, l'État a dit pourquoi pas, si les femmes acceptent que les enfants reviennent sans elles, pour qu'elles soient jugées peut-être là-bas, mais au Kurdistan syrien, il n'y a pas d'autorité judiciaire compétente. Et pour le moment, ces enfants sont dans le camp de Roj, plusieurs dizaines, alors qu'il y a l'hiver qui arrive et aucun retour n'est prévu, en tout cas, de façon immédiate dans les prochaines semaines.
Et la question, pardon, allez-y, Christophe.
Non, j'allais dire, le danger réel également, c'est tous ces djihadistes qui ont été jugés et condamnés sur le sol français et qui vont arriver à terme de leur peine. Quid, que fait-on?
Et à cette question-là, évidemment, Hugo Micheron, pour l'instant...
Elle est centrale, d'autant que les premières peines qui étaient tombées en 2013 étaient relativement faibles. Hein. On était avant le 7 janvier 2015, et donc ils étaient généralement condamnés à 6-7 ans. Les peines se sont musclées au fur et à mesure, mais donc c'est effectivement une question. Et puis, ce qui se passe en détention, c'est-à-dire que la prison est un territoire à part entière où des dynamiques, et on le voit très bien
pour
avec
preuve,
cet individu.
Voilà.
Donc ça, c'est il y a trois espaces en fait. Il y a des dynamiques en France sur le territoire national à l'air libre, si vous voulez. Celles-là, elles sont à l'heure actuelle très surveillées. Il y a les dynamiques syriennes, où là, elles sont en mauvais espace. Et puis, il y a les dynamiques carcérales. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'à la fois, ils sont hyper accessibles à l'État. Hein, ils sont dans l'endroit, on va dire, le plus contrôlé par l'État. Et en même temps, très difficile, quand les individus sont très, très endurcis, de faire quoi que ce soit avec eux, à part les surveiller.
Voilà, et puis on attend de voir, effectivement, et c'est ce que soulignait Sophie Parmentier tout à l'heure, avoir des infos supplémentaires sur cet homme, sur Chérif Chekat, sur ses motivations, sur ce qu'il cherchait à faire réellement, sur savoir exactement quelles étaient ses motivations, ce qu'on trouvera chez lui. Tout ça sont des éléments, évidemment, qui seront très importants pour vous les chercheurs, pour la police aussi, et pour notre compréhension de tout ça, et voir exactement à quel genre de personnage nous avons affaire. Merci beaucoup, merci encore une fois, évidemment, pour tous et vos nombreuses questions. Dans 3 minutes, c'est Laura Adler.